Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot.
Simon Dutin.
Walid Acharchour, Elton Mokolo vous accompagnent ce samedi 25 juillet. Vous le savez, l'after est là tous les soirs de l'année et donc également en été. Avant de parler de l'Olympique de Marseille et de son mercato, c'est l'avis d'Elton à suivre. Vous le savez, la prouesse de RMC, c'est d'être partout. Le sport crée l'événement et l'événement, ce week-end, ce sont les championnats de France d'athlétisme du côté d'Albi où nous attend Camille Borin. Salut Camille.
Salut Simon, salut à tous.
Allez, salut. Petit résumé avec toi de ce qu'on a manqué et de ce à quoi les spectateurs présents à Albi, sous la pluie je crois, vont pouvoir assister.
Oui, sous la pluie. Il s'est enfin arrêté de pleuvoir, c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'entre les 40 degrés d'hier et là la pluie, le vent d'aujourd'hui, les conditions elles sont pas top pour les athlètes. Donc là ça s'est calmé. Bon, en même temps la journée se termine bientôt, donc bon, timing pas idéal non plus. Il s'est passé beaucoup de trucs, mais je vais vous résumer un petit peu tout ça. Déjà Marie-Julie Bonin, championne de France de saut à la perche, devant, et ça je tiens à le dire parce que c'est assez émouvant, on va dire, devant Margot Chevrier. Vous savez, elle s'était blessée 6 mois avant les Jeux. Oui. C'était la perchiste en France. Elle s'était blessée, elle avait jamais retrouvé son niveau. Et là, elle a fini deuxième, vice-championne de France, 4m55, c'est son meilleur saut depuis sa blessure. Voilà, ça peut paraître incroyable, mais pour elle, elle était vraiment très émue et c'est une belle histoire comme on les aime dans le sport. Donc voilà, je tenais à le préciser. Et puis je vous donne le résultat des 100 mètres. 100 mètres féminin, c'est Jemima Joseph qui est championne de France et elle est en quête du doublé parce qu'elle a le 200 demain. Elle a terminé devant Sarah Rechaningas et Grace Stade. Et puis à la surprise générale, alors qu'on pensait que le 100 mètres masculin allait se départager entre Jeff Arius et Pablo Matteo, eh bien c'est Théo Schaub qui a remporté la course devant Jeff Arius, donc et Antoine Touraval. À noter la blessure de Pablo Matteo qui n'a pas pu finir la course. C'est peut-être le pourquoi cette surprise. Voilà, et puis là, on vient d'avoir le 3000 mètres steeple homme qui vient de partir. Là encore, gros combat pour les Europes parce qu'ils sont 5 pour 3 places en plus de la wildcard qu'a Alexis Millet puisqu'il est champion d'Europe en titre.
Merci beaucoup, Camille. Camille Borin, direct d'Albi, qui vous fait vivre tout le week-end ces championnats de France d'athlétisme qui précèdent, vous le savez, les championnats d'Europe qui auront lieu un petit peu plus tard cet été. On se retrouve rapidement sur l'antenne de RMC. Retour à notre programme de l'after en compagnie de Walid et Elton. Vous le savez, c'est l'OM qui va ouvrir la saison 2026-2027. C'est le 21 août prochain, réception de Strasbourg au Vélodrome. Nouvel entraîneur, nouveau directeur sportif, nouveau président, certainement un effectif très remanié. Et pour ce remaniement, c'est un euphémisme de dire que l'OM ne dispose pas de moyens illimités. Pourtant, ça ne fait pas peur à Elton Mokolo, à vie tranchée.
Tu peux te rattraper.
Une défaite en J1 sur une équipe à 10 qui s'est recroquée.
Exactement. Pour le coup, tu mets dans mon moulin.
Je dis d'autant plus facilement que l'Olympique de Marseille a perdu 3-0 face à Nice en match amical en début de soirée. J'ai vraiment dans cette idée qu'on est sur une saison rédemption. Quand on parle de Marseille, pourquoi je dis ça? Quand on parle du mercato, un mercato, bah voilà, c'est un mercato à zéro recrue quasiment parce qu'il y a eu des prêts qui ont été enregistrés, qui se sont transformés en transfert définitif. Moi, je me dis que ce mercato restreint par rapport à l'effectif doit être un atout. Pourquoi? Parce que oui, l'Olympique de Marseille factuellement va être amoindri, va perdre en qualité avec les pertes de Mason Greenwood, les pertes d'Aubameyang. Mais à côté de ça, t'as encore des forces vives qui peuvent être utilisées. Je parle souvent à plusieurs reprises de mercato interne par rapport à la réalité de joueurs qui peuvent évoluer d'une saison à une autre. On est totalement dans ce cas quand on parle de l'Olympique de Marseille, avec des joueurs qui ont globalement déçu la saison dernière, que ce soit par rapport à des contextes différents, soit ils arrivaient sur leur première saison, je fais référence à un Medina par exemple, il y a des joueurs qui étaient déjà présents et qui n'ont pas su passer un cap. Mais en tout état de cause, moi je me dis que sur une saison où les attentes sont à la baisse, avec un entraîneur qui, au LOSC, sur sa dernière saison, a déjà été confronté à une saison redéfinition du projet, avec des départs très importants, comme Zegrova, comme Diakité, comme Jonathan David, et ça l'avait pas empêché de terminer à troisième place. Moi, je me dis que l'Olympique de Marseille a besoin justement de s'appuyer sur une base beaucoup plus restreinte pour pouvoir faire un esprit de groupe, un esprit commando, pour pouvoir être une équipe compétitive. Parce que l'année dernière, l'histoire de l'Olympique de Marseille, c'est un groupe qui a eu beaucoup de qualités par rapport à l'environnement de Ligue 1, mais qui n'a pas été en mesure de bien gestionner, d'avoir une gestion efficace de cette qualité. Parce que tu avais beaucoup d'allers-retours dans le 11 de départ, il y avait aussi la réalité des blessures, la réalité de l'enchaînement par rapport à la Ligue des Champions, et forcément c'était une équipe qui n'arrivait pas à trouver sa régularité. Et moi aujourd'hui, j'ai une attente envers Bruno Genesio, c'est cette capacité à pouvoir construire rapidement un 11 de départ, un effectif qui soit justement prêt pour pouvoir évoluer sur les trois compétitions, que ce soit la Ligue 1 d'abord, la Ligue Europa qui va être aussi un objectif qui est beaucoup plus en adéquation avec la réalité de l'effectif olympien, et la Coupe de France. Et moi, je me dis tout ça par rapport à cette idée que l'Olympique de Marseille, avec un effectif restreint, peut nous surprendre et peut être la bonne surprise de ce championnat. Je n'oublie pas qu'il y a des précédents. 2012-2013, t'es déjà dans cette situation. Après le départ de Didier Deschamps, t'as terminé vice-champion de France. Je n'oublie pas que 2019-2020, avec en astérisque le Covid, t'as terminé également vice-champion de France. Ce que je veux dire par là, c'est que ce serait pas un fait nouveau pour l'Olympique de Marseille. Et j'en appelle pas seulement à l'histoire, j'en appelle aussi à la réalité de l'effectif. Parce que, sincèrement, quand tu vois le 11 qui a été aligné contre Nice, oui, il y a des joueurs qui sont pas encore revenus, mais ça reste intéressant. T'as des retours de prêt qui peuvent aussi apporter à l'échelle de la Ligue 1. Donc c'est pour ça que pour conclure.
Ils ont pris 3-0 quand même.
Oui, ils ont pris 3-0, mais t'as une réalité de match où l'Olympique de Marseille a aussi des occasions. C'est un peu trompeur. Mais tout ça pour expliquer que par rapport à l'effectif qui est là, par rapport au cadre qui devrait être un peu plus assaini, par rapport à un entraîneur qui, à la différence de Roberto De Zerbi, connaît beaucoup plus l'environnement Ligue 1 et qui va pouvoir doter cette équipe, notamment, d'un côté athlétique beaucoup plus renforcé. Et je n'oublie pas l'impact du directeur sportif sur les dernières heures du mercato qui peut te rajouter des joueurs de rotation qui peuvent être à minima compétitif pour l'Olympique de Marseille. Voilà mon propos sur cette idée que cet effectif court et restreint peut être un atout pour l'Olympique de Marseille.
Alors tu n'oublies rien et c'est formidable, mon cher Elton. Je passe la balle à Walid. C'est pas un peu tiré par les cheveux de considérer que, bon, parce que t'as moins d'argent pour recruter et remplacer des joueurs qui sont partis.
Quand t'as pas d'argent, tu fais moins d'erreurs déjà.
T'as le précédent de Lyon l'été dernier.
Ça a des vertus, quoi. C'est qu'à un moment donné, puis tout est une histoire de conditionnement. Là où moi je peux être d'accord avec Elton, c'est que le conditionnement qu'il y avait autour de Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia et Longoria, par rapport aux attentes, par rapport aux sommes dépensées, par rapport aux salaires, bah bien évidemment la compétence qu'il y avait dans ce club-là, l'énergie, l'exigence, l'ambition,
tu devais justifier l'investissement.
Voilà, faisait que quoi qu'il arrive, il y avait cette volonté de faire des résultats, de bien jouer au football. Si tu faisais les résultats et que tu faisais pas bien jouer l'équipe, bah nous on n'était pas contents. Si c'était l'inverse, la même chose. Donc là, s'il y a un conditionnement où je crois que c'est Genesio qui a dit que les ambitions allaient être revues à la baisse, le contexte sera beaucoup plus tranquille. Et Elton a énuméré les précédentes saisons de l'Olympique de Marseille. De toute façon, on le sait, hein, l'Olympique de Marseille, c'est on fait une fois Ligue des Champions. Après, derrière, on se vautre. Et après, dans la saison où on se vautre, on revient parce qu'on a moins d'argent ou on a moins d'ambition. On se rappelle de Villas-Boas quand tu joues avec Valère Germain, Max Lopez à droite, ou t'as Payet qui les tient à bout de bras. Voilà, t'as l'Olympique de Marseille a réussi dans une Ligue 1. Et on l'a bien vu avec Brest, avec Lens, avec Nice. Il y a des exemples où, avec Lyon l'année dernière, il y a des exemples où on promettait l'enfer à ces clubs-là. Au final, ils ont réussi à faire des top 5, voire même des top 3. Donc moi je suis pas alarmiste. Enfin, on verra ce qui se passera sur le terrain. Maintenant, bien évidemment que le mercato va être très compliqué, qu'il faut pas oublier que Greg Lorenzi sait faire dans ce type de mercato là. Et c'est pour ça qu'on va l'attendre là-dessus et que je pense que c'est quand même le DS idéal pour ce type de mission. C'est que avec Brest, quand ils font la Ligue des Champions. Je me rappelle qu'ils avaient pris 5-1 par l'OM de Zerbi. Je crois que c'est le premier match de Zerbi où il a une équipe qui est complètement décimée et il fait des coups avec des opportunités de marché sur les 15 derniers jours et son équipe finalement fait 16e de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Donc il faudra être patient. Comme l'Olympique Lyonnais l'année dernière, moi tout le monde disait ah ils vont faire 10-12 et tout etc. Mais le problème c'est que contrairement à l'Olympique Lyonnais, il y avait quand même un chef d'orchestre qui s'appelait Fonseca, moi, qui pour moi était la star de ce club. Est-ce que Genesio va pouvoir faire ça? Est-ce qu'il va pouvoir, dans le jeu, impacter une équipe? C'est la question, même s'il a un savoir-faire et que ça reste un entraîneur de renom à l'échelle de la Ligue 1. Mais oui, pourquoi pas, moi? Parce que dit Elton, pourquoi pas? Aujourd'hui, le conditionnement marseillais va faciliter des choses. Comme ça a facilité, moi, je pense, l'Olympique Lyonnais l'année dernière, où tu perds un match, t'es moins bon, etc. Tu dois faire corps, même médiatiquement, on va dire, même pour les les supporters sur le fait que ouais, c'est une saison qui va être très très dure. Même si moi, le seul petit bémol, c'est que l'Europa League, quand t'es l'Olympique de Marseille comme l'Olympique Lyonnais, tu pourras pas galvauder cette compétition.
C'est un rendez-vous très important.
C'est un rendez-vous qui est important. Et donc, est-ce que tu vas avoir l'effectif conséquent pour le faire? Mais faudra attendre avant d'être alarmiste.
Je me permets de
rappeler. Même si la situation est alarmante, mais globalement, parce qu'il faut pas dévier là-dessus, mais cette situation alarmante, tu peux en faire des belles choses, ou en tout cas, tu peux essayer de repartir sur des bases un peu plus saines qui vont peut-être donner un peu plus de tranquillité à ce club.
Et puis sincèrement Simon, moi le calendrier, le début de calendrier de l'Olympique de Marseille m'excite, parce que là ça va être les épreuves de feu.
Mais ça va être dur, les débuts vont être durs.
Strasbourg, Monaco, Paris FC, Rennes, PSG, les cinq premières journées, juste avant la trêve internationale.
Avec un mercato qui sera sûrement pas fini, parce que là maintenant il faut vendre avant d'acheter. Au passage, je dois des excuses aux auditeurs de RMC. Je me suis fait complètement piéger par un contrôle il y a deux trois jours qu'on m'a envoyé dans un groupe sur Nzonzi, et je m'excuse. Voilà, une grosse erreur de fatigue. Donc voilà, je voulais m'excuser par rapport à ça, et je devais bien ça aux auditeurs.
Il faut savoir reconnaître ses erreurs et à moitié pardonné, mais complètement pardonné, évidemment.
Pardonné,
ça c'est un métier dans lequel on se
avec l'enchaînement des émissions, on m'avait envoyé ça sur un groupe, j'ai pas regardé. J'avais confiance en Massiliazo et aux confrères de l'équipe, et j'ai pas percuté.
T'as pas vérifié les angles morts.
Exactement.
L'important,
ça arrive.
L'important,
ça arrive même au plus nul.
Même au meilleur, sois pas modeste comme ça. Elton Mokolo, Walid Acharchour. On continue, les amis, de parler de l'OM dans un instant, parce qu'il y a Lai qui a fait le 32-16 et qui a patienter, et puis on va regarder un petit peu là. Tu nous parlais de la compo de l'OM qui en a pris 3 face à Nice ce soir. Vous allez nous dire qui reste et qui sort dans cette équipe pour la saison à venir.